Place Info.
Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour.
4 morts, un disparu, des dégâts qui se chiffrent en centaines de millions d'euros dans le sud-est. Est-ce que c'est juste un phénomène météo exceptionnel qu'on vient de connaître, ou est-ce qu'il faut s'interroger également sur le rôle de l'homme et de l'urbanisation ?
Alors c'est sûr qu'on a vécu beaucoup d'épisodes météo exceptionnels. Je voudrais commencer par saluer le rôle des secours, des pompiers, des gendarmes, etc. Dans cette crise, il y a eu énormément de sauvetages, de prises en charge. Après, je crois que c'est deux choses qui se cumulent. D'abord, des précipitations qui reviennent de façon exceptionnelle, des pluies. On en a de plus en plus. Et c'est évidemment lié d'une manière ou d'une autre au dérèglement climatique. On ne peut pas dire que c'est tel événement humain qui crée tel événement, telle perturbation, mais c'est évidemment lié. Et puis, on est dans des endroits, le Var, les Alpes-Maritimes, où les sols ont été beaucoup bétonnés, imperméabilisés. Et donc, on a des précipitations, des pluies exceptionnelles dans des endroits dans lesquels, progressivement, on a urbanisé de plus en plus au long des années précédentes, des décennies précédentes. Et du coup, les sites sont plus fragiles, l'eau s'écoule moins bien, et ça crée ces difficultés.
Renaud
et ces drames.
Cette urbanisation que vous évoquez dans la région sud-est, précisément votre collègue Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place ce week-end, il l'a évoqué. Écoutons-le.
La nature doit être respectée, elle doit être entendue, elle doit être écoutée. Nos politiques d'aménagement doivent prendre cela en compte. Depuis 40 ans, depuis 50 ans, il y a eu des fautes d'aménagement et nous devons les prendre en compte.
Des fautes d'aménagement depuis 50 ans, dit Christophe Castaner. Comment les prendre en compte et comment les corriger, Emmanuel Wargon ?
Alors, je vais vous donner un exemple parce que j'ai travaillé sur l'un des dossiers des Alpes-Maritimes à côté de Biote. Il y a une rivière qui s'appelle la Brague et elle a été en inondation il y a 3 ans et ça a été terrible avec des morts.
Et Biote a été à nouveau terriblement touchée ce week-end.
Et Biote a été de nouveau inondée. Et depuis, on a commencé à travailler à rendre des terrains qui étaient des terrains constructibles et construits non constructibles, racheter les maisons,
et les détruire.
Réouvrir le lit de la rivière et les détruire. Alors ça n'est pas fini, il y a encore des endroits sur lesquels il faut finir de racheter les constructions. Mais là où on a renaturé, c'est-à-dire là où on a détruit des habitations après qu'on ait racheté les maisons, et là où on a réélargi le lit de la rivière, ça se passe mieux ou moins mal. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça beaucoup plus souvent. D'abord qu'on soit strict sur les permis de construire et aussi qu'on revoie à la lumière des crises, des crues, là où il faut rendre des terrains à la rivière, là où il faut rendre des terrains à la nature. On ne pourra plus urbaniser comme avant, je crois qu'on le sait tous maintenant.
Quand sera décidé l'état de catastrophe naturelle pour les communes concernées, vous le savez ?
Alors Christophe Castaner a dit hier, quand il s'est rendu sur place, que ce serait fait aussi vite que possible, qu'il allait convoquer la commission qui fait ça au ministère de l'Intérieur. Donc c'est une affaire de jours.
Prochain Conseil des ministres peut-être ?
Ça, je ne crois pas que ça passe au Conseil des ministres, mais en tout cas, ça sera fait très très rapidement. Ça a été fait pour la Drôme et l'Ardèche. Vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours. Ça y est, la catastrophe naturelle a été reconnue. Donc là, c'est pareil, c'est en jour.
Et on sait que cet état permet notamment d'allonger les procédures d'assurance qui sont normalement de 5 jours et qui sont doublées à 10 uniquement, je crois, quand les communes sont classées en état de catastrophe. C'est bien ça.
Tout à fait, ça permet d'améliorer les procédures.
Renaud Dely.
Alors Emmanuel Wargon, il ne reste plus qu'une dizaine de jours avant la fameuse date du 5 décembre, celle de l'appel à la grève, une grande grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le Premier ministre Édouard Philippe reçoit à nouveau, à partir d'aujourd'hui, l'ensemble des partenaires sociaux, en tout cas des syndicats à Matignon. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore une chance pour le gouvernement de réussir à éviter cette grève du 5 décembre ?
Nous souhaitons que le dialogue continue au maximum. C'est pour ça que le Premier ministre reçoit toutes les organisations syndicales et patronales aujourd'hui et demain. En fait, nous sommes clairs sur l'intention de la réforme. Nous avons des régimes de retraite qui ne sont plus équilibrés pour tous les régimes spéciaux depuis longtemps. Nous avons besoin de plus de justice, de plus de simplicité, de plus d'universalité dans les retraites. Ça, ce sont les principes qui fondent la réforme. Après, pour les modalités, elles sont encore très ouvertes. Le texte n'est pas encore écrit. Et donc, nous sommes à un moment où nous sommes prêts à discuter avec chacune des professions concernées, les professions des régimes spéciaux, avec les organisations syndicales et patronales pour trouver le bon point d'équilibre sur comment faire cette réforme. Et bien sûr, nous écouterons ce qui se passe le 5 décembre.
Ce sont des négociations qui débutent aujourd'hui. La loi n'est pas encore écrite.
La loi n'a pas encore été présentée en Conseil des ministres, le texte n'a pas encore été présenté à la concertation avec les partenaires sociaux. Nous sommes encore dans une phase de construction et d'ailleurs de débat avec les Français, hein, puisque vous savez que Jean-Paul Delevoye tient de nombreux débats avec les Français pour présenter les principes et les grandes lignes de la réforme. Nous en sommes là.
Est-ce qu'il y aura forcément des mesures d'économie dans cette réforme pour remettre le régime à l'équilibre en 2025 ou est-ce que ça aussi c'est sur la table ?
Le point de départ de l'action du gouvernement sur le sujet des retraites, ça n'est pas de rééquilibrer à court terme. Le point de départ, c'est de refonder un régime de retraite, parce que notre régime de retraite, il a été fondé en 1945, et que maintenant, il est dépassé. Il faut qu'on passe à un régime différent. Donc notre objectif, c'est de refonder pour plusieurs dizaines d'années. Lorsque nous avons commencé, le COR, le Conseil d'orientation pour les retraites, qui est l'organisme indépendant qui nous dit où en sont les régimes de retraite, nous disait que pour les 5 ou 10 ans qui viennent, les régimes de retraite étaient équilibrés. Donc on était bien dans une réforme de système. Maintenant, le COR vient de nous rendre un rapport pour nous dire que finalement, il va peut-être falloir rééquilibrer. Donc c'est une deuxième question qui se pose, mais on ne veut pas mélanger les deux
ça
questions.
Ça veut bien dire que la réforme a changé en cours de route.
Non, ça veut dire que...
Entre le programme d'Emmanuel Macron qui disait réforme de justice sociale et celle aujourd'hui, réforme de justice sociale plus économie, c'est plus la même.
Non, ça ne veut pas dire que le projet a changé. Le projet, c'est toujours un projet de justice sociale et d'universalité. En revanche, le contexte a changé. Maintenant, les évaluations nous disent que nous avons aussi une question d'équilibre et nous traiterons aussi cette question d'équilibre. Mais le projet, c'est un projet de refondation.
Quand vous dites juste que la loi n'est pas encore écrite, ça signifie que, par exemple, les régimes spéciaux qui mobilisent notamment les personnels de la RATP et de la SNCF, ils sont encore négociables ou ils sont de toute façon supprimés ? Ils seront supprimés ?
Encore une fois, il faut vraiment séparer les objectifs et le comment. Les objectifs sont clairs, ils ont été posés depuis maintenant un an et demi, depuis les premières concertations avec Jean-Paul Delevoye et tout le gouvernement. Maintenant, à quelle vitesse, dans quelles conditions, avec quelle contrepartie, quelle prise en compte des personnes qui doivent partir plus tôt compte tenu de leur rôle en matière de police de sécurité par exemple, toutes ces questions sont encore ouvertes.
Emmanuel Wargon, vous restez avec nous dans quelques instants, on se posera la question du service minimum. Faut-il une nouvelle loi comme le réclame une partie de la droite aujourd'hui ? Mais d'abord, l'essentiel à 9h-20 avec Mélanie Delaunay.
Les attentes sont immenses, prévient le collectif Nous Toutes. Deux jours après les manifestations, le gouvernement présente les conclusions du Grenelle contre les violences conjugales. Deux centres de prise en charge des auteurs de violences vont être créés dans chaque région. Quatre morts et un septuagénaire toujours porté disparu après les intempéries dans le Var et les Alpes-Maritimes. Les dégâts sont importants, le coût des inondations évalué à 300 millions d'euros, selon le cabinet d'expertise Saretec. Deux jours d'entretien pour montrer que le dialogue social continue avant la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Les partenaires sociaux ont rendez-vous à Matignon à partir de ce matin. À Hong Kong, la chef de l'exécutif promet d'écouter humblement les électeurs. On se dirige vers une victoire écrasante des pro-démocraties après 6 mois de contestation contre le gouvernement.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuel Wargon. Et cette question maintenant, à 10 jours de la grève, notamment dans les transports du 5 décembre prochain, le patron de la droite au Sénat, Bruno Retailleau, vous demande de légiférer une nouvelle fois sur le service minimum. Écoutez.
Moi, mon service minimum garanti, c'est un tiers du trafic aux heures de pointe, c'est-à-dire le matin et le soir. Il y a des millions de Français désormais qui utilisent les services publics et on a un enjeu écologique. Si on veut développer les transports en commun, il faut qu'ils soient sûrs.
Est-ce que vous êtes favorable à une nouvelle loi, Emmanuel Wargon ?
Moi, je suis favorable à l'exercice du droit de grève. Le droit de grève est un droit en France important. Donc il faut trouver le bon point d'équilibre entre droit de grève et service minimum. Il me semble que les textes actuels sont satisfaisants, donc non, je ne suis pas favorable à une nouvelle loi.
Pas de réquisition des grévistes comme le suggère Bruno Retailleau notamment.
De toute façon, on va aussi voir comment les choses se déroulent, si la grève est ponctuelle le 5 décembre ou si elle continue. Mais à ce stade, il me semble que l'équilibre que nous avons est un équilibre qui a été trouvé après de nombreux textes successifs. Et je ne vois pas de raison d'aller chercher un nouveau texte.
Et est-ce qu'à vos yeux, Emmanuel Wargon, les grévistes du 5 décembre, notamment dans les transports, portent des revendications corporatistes ?
Ils portent un système qui n'est plus justifié aujourd'hui. Quand on a créé ces régimes spéciaux, on avait des départs très tôt qui étaient liés à une forme de pénibilité particulière au travail. Mais conduire un train aujourd'hui, ou un métro ou un bus, ça n'est pas du tout la même chose que conduire un train quand on était cheminot dans les années 50. Donc il porte une défense d'un système qu'il faut remettre à plat aujourd'hui.
Un système qui est dépassé pour vous aujourd'hui.
Qui est un système qui n'a plus le sens qu'il avait dans les années 45 ou 50 aujourd'hui.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de sous-estimer ce qui va se passer le 5 décembre, c'est-à-dire de penser qu'il y aura uniquement des cheminots dans la rue ?
Écoutez, on verra ce qui se passe le 5 décembre. On est
une
encore
caissière,
une fois,
par exemple, qui s'inquiète du montant de sa future pension, quelqu'un qui a eu une carrière très hachée, qui s'inquiète de ce qu'elle va devenir avec la réforme, peut avoir des motifs d'inquiétude aujourd'hui ?
En fait, le paradoxe, c'est que cette réforme, elle va favoriser les personnes avec des carrières hachées. Précisément, c'est une réforme qui, parce que elle va valoriser chaque euro cotisé de la même manière, va plutôt favoriser les femmes qui ont travaillé puis se sont arrêtées, les personnes à temps partiel avec des horaires incomplets, alors qu'aujourd'hui, les règles de liquidation d'une retraite, notamment dans le régime général, favorisent le fait d'avoir des annuités complètes sur une période assez longue. Donc je comprends que chacun s'inquiète. On a aussi à continuer à expliquer les principes et les modalités de cette réforme. Mais cette réforme, elle est plutôt faite pour favoriser notamment les femmes. Et puis, elle crée aussi un minimum de retraite, puisqu'on ne pourra pas partir à la retraite avec moins que 1 000 euros par mois. Et ça aussi, c'est un progrès social.
Pour être certain, Emmanuel Wargon, de ce que vous dites, il faudrait connaître les détails de la réforme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Écoutez ce qu'en dit notamment le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.
Le gouvernement doit, d'une certaine manière, dire où il va. Tout le monde est contre sans savoir ce qu'il y a dedans. Je pense que la première chose à faire, c'est de dire ce qu'il y a dedans. Essayer de donner des axes clairs. Après, les uns les autres pourront se prononcer.
Il est temps de savoir, non ?
Nous la construisons, cette réforme. C'est une réforme extrêmement ambitieuse, très lourde. Et donc, c'est pour ça que les concertations ont eu lieu dans une première phase. Nous allons bientôt arriver à un texte. Et effectivement,
bientôt,
quand nous aurons
quand
un texte... Bon, je n'ai pas de date aujourd'hui, mais
c'est
nous allons bientôt arriver à un texte.
Avant Noël, a priori ?
Bientôt. Et quand nous aurons un texte, ce sera évidemment plus simple pour tout le monde de se positionner. Mais on ne peut pas à la fois nous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à clarifier collectivement. Nous devons continuer à discuter et il est temps pour le gouvernement de déposer sa copie. Mais la copie arrivera dans quelques semaines.
Et l'entrée en vigueur, c'est bientôt aussi, 2025-2050 ?
Ça fait vraiment partie des points en discussion, de savoir pour quelle génération l'entrée en vigueur se fera. En tout cas, ça ne se fait ni pour les retraités actuels, je le redis parce que je sais que certains s'inquiètent, ni pour ceux qui sont proches de la retraite.
Alors en matière d'environnement, Emmanuel Wargon, il y a un texte porté par le gouvernement sur pour une économie circulaire. C'est une loi anti-gaspillage qui portait notamment jusqu'à présent une mesure qui a été très contestée par les élus locaux, en particulier par les maires, c'est la mesure de la consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique. La semaine dernière, lors du congrès des maires de France, Emmanuel Macron a expliqué que rien ne se fera sans les maires. Si les maires ne veulent pas de consigne, il n'y aura pas de consigne. Cette mesure, elle est définitivement enterrée ?
Ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il faut qu'on trouve, comme toujours, la conciliation entre la lutte contre le plastique. La lutte contre le plastique, elle est indispensable. Et le fait que les communes ont toutes mis en place des systèmes de recyclage et qu'on a besoin de ne pas déstabiliser les systèmes de recyclage locaux. En fait, les communes, il l'a dit aussi, en parlant d'écologie territoriale, les communes sont en première ligne sur beaucoup de sujets sur l'écologie. Sur le recyclage, mais aussi sur l'alimentation et les circuits courts,
libre
mais
choix
aussi
des maires.
Sur l'électricité et l'énergie. En tout cas, l'idée c'est de trouver un point d'équilibre qui permette de ne pas déstabiliser les systèmes de recyclage de déchets, de collecte et de recyclage des déchets, pour qu'on arrive à notre objectif, c'est-à-dire recycler toujours plus de plastique, laisser le moins de plastique possible
dans la
nature. J'essaie
de comprendre, Emmanuel Wargon, ce que signifie ce mot point d'équilibre. Ma bouteille en plastique, je la mets dans ma poubelle où ça part au recyclage ou je la ramène à la consigne ?
Bon, d'abord, le plus important, c'est que votre bouteille en plastique, elle ne finisse pas dans le bac de déchets normal, pire,
Comptez sur moi, dans le caniveau. Je la mets où ?
Ben, ça dépendra des endroits. Dans certains endroits, il y aura des systèmes de consignes. Dans d'autres, ce sera du recyclage général.
Et ça tout dépendra ceci de qui ? Alors, c'est le maire qui décidera ?
vraiment, c'est, d'abord, le texte arrive pour discussion à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc, je crois que la discussion, elle ne se fera pas dans ce studio, elle se fera plutôt dans l'hémicycle. Mais en tout cas, c'est la question, que ce soit dans un système de recyclage dédié ou que ce soit dans le bac plastique qui permet de recycler le plastique, l'important, c'est que la bouteille, elle ne traîne pas.
Ce que disent les maires, c'est que si on crée une consigne, ça risque de déstabiliser toute la filière qui aujourd'hui commençait enfin à s'organiser et leur faire perdre beaucoup d'argent et donc faire que cette filière ne fonctionne plus, y compris pour les autres produits qu'on met à la poubelle.
Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut trouver le point d'équilibre entre un système dédié pour les bouteilles en plastique ou un système général pour tous les déchets, plastique, carton, etc., qui s'est, et c'est quand même une bonne nouvelle, beaucoup développé en France. Après, on recycle peu le plastique en France. On doit recycler environ à 30%. Dans les grandes villes, on doit recycler à 10%, alors qu'on a des objectifs français et communautaires autour de 70%. Donc il faut qu'on fasse des progrès collectifs.
Alors en matière de point d'équilibre à rechercher par la majorité, la majorité a eu du mal à trouver l'équilibre sur une autre mesure. La semaine dernière, finalement, les députés ont fini par supprimer les avantages fiscaux dont jouissaient jusque-là des produits à base d'huile de palme. On se souvient qu'il y a eu deux votes à l'Assemblée avant que la majorité se résolve à supprimer ces avantages. Et sa décision, elle ne plaît pas du tout à Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui assure que cette décision va mettre en danger la bioraffinerie de La Mède, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Écoutons-le.
Nous continuerons à faire des biocarburants à base de palme à La Mède pour les exporter en Allemagne, en Belgique. Je souhaite que maintenant qu'on trouve le cadre économique. J'espère qu'on le trouvera, parce que sinon, malheureusement, cette survie économique de cette usine sera en jeu.
D'après Patrick Pouyanné, la survie économique de cette usine, c'est 250 emplois qui sont en jeu.
Moi, j'ai pas l'impression que l'entreprise Total soit en telle difficulté qu'elle n'arrive pas à assumer la survie économique d'une usine qui fait 250 emplois. Donc, il me semble que l'équation pour le groupe doit être possible. Moi, je suis tout à fait contente du résultat de ces discussions. Cet avantage fiscal avait été supprimé une première fois en 2020. Il y a eu un débat parlementaire.
Pourquoi ça a été si difficile ?
Pourquoi est-ce que le gouvernement a changé d'avis sur cette question ?
Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ne donne aucun signal qui puisse inciter à la déforestation.
C'est de savoir
comment est-ce qu'on importe en France des produits qui sont des produits qui peuvent créer de la déforestation, notamment en Asie du Sud-Est. Et c'est catastrophique parce que ce sont des forêts qui brûlent, ce sont des puits de carbone qui brûlent. Et on parlait des règlements climatiques au début, on ne peut pas continuer à accepter ça. Après, il existe des cas dans lesquels il y a des certifications qui permettent d'être sûr que l'huile de palme ou d'autres produits d'ailleurs qu'on importe sont produits de façon durable. Et pour moi, c'est ça la bonne piste, c'est être sûr qu'on a des produits produits de façon durable. Nous avons prévu un groupe de travail avec les ONG, les organisations internationales qui sont vigilantes sur ce sujet et Total. Je pense que la question, elle est plutôt posée comme ça.
C'est clair et net, ça ne changera plus désormais, l'huile de palme perd ses avantages dès l'an prochain.
En tout cas, c'est ce que l'Assemblée nationale a voté.
Et c'est la position du gouvernement que vous défendez ce matin ?
Moi, ça me paraît être la bonne solution.
Merci Emmanuel Wargon. Vous restez avec nous encore. On va parler dans quelques minutes de la prochaine COP. Vous nous expliquerez pourquoi Emmanuel Macron n'a pas l'intention d'y aller. On parlera également de la chasse à la glu dans quelques instants. 8h51, Mélanie Delaunay pour l'essentiel de l'info.
Jusqu'à 3 mois de pluie en l'espace d'un week-end dans le sud-est. Et ce matin, la décrue amorcée dans l'ensemble de la région, indique le préfet de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur France Info. Les intempéries ont fait 4 morts. Un septuagénaire est toujours recherché dans le Var. 2 jours après les manifestations, les annonces du gouvernement dans une dizaine de minutes à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales. La ministre Marlène Schiappa en dévoile certaines, comme la création de centres de prise en charge des auteurs de violences pour éviter la récidive. Syndicats et patronat à Matignon. Avant la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites, les partenaires sociaux vont se succéder pendant 2 jours face au Premier ministre. L'OM continue sur sa lancée. 3e victoire d'affilée, 2-0 contre Toulouse. Une 2e place conservée au classement de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Et puis LVMH s'offre le joaillier américain Tiffany pour l'acquérir. Le géant français du luxe débourse près de 15 milliards d'euros.
France Info. Et tout est plus clair.
Vous confirmez, Emmanuel Wargon, qu'Emmanuel Macron ne se rendra pas à la COP qui débute dans une semaine en Espagne ?
Non, je ne confirme rien du tout. C'est pas moi qui annonce l'agenda du président de la République. En tout cas, cette COP, c'est une COP importante parce que il faut qu'on arrive à démontrer les uns et les autres qu'on est capable de se mettre sur le chemin de l'atteinte de l'accord de Paris. Vous savez, l'accord de Paris, c'est l'accord qui dit on va essayer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum en 2050. En France, on a amorcé cette transition. On a baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 4% pour la première fois l'année dernière. 3%,
mais la France, pour l'instant, n'atteint pas ses objectifs, ceux qui sont inscrits dans l'accord de Paris.
La France est sur une trajectoire qui est encore trop haute par rapport à l'accord de Paris, comme à peu près tous les États du monde, même si on a baissé nos émissions l'année dernière après 2 années de hausse. Mais donc c'est important que tout le monde se retrouve en se disant l'objectif est toujours là, il n'y a pas grand monde qui y arrive aujourd'hui, après chacun est dans une tendance plus ou moins positive.
Mais le problème, c'est qu'on continue. Ce sont les moyens désormais. C'est pas simplement de se retrouver effectivement à Madrid pour dire bon bah l'objectif est toujours là, on ne change pas d'objectif. C'est peut-être l'enjeu de trouver de nouveaux moyens pour essayer d'atteindre cet objectif.
Oui, vous avez raison. L'enjeu, c'est de dire l'objectif est toujours là, il est impératif, de faire le bilan pour voir qui se positionne, comment les efforts actuels suffisent ou ne suffisent pas. Pour la majeure partie des pays, on n'y est pas encore, c'est ce que je vous disais. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette convention citoyenne pour le climat avec 150 personnes qui délibèrent actuellement et qui vont nous aider à passer aux étapes d'après, au-delà de ce qu'on fait déjà sur les énergies renouvelables, sur le bâtiment, sur les transports, etc.
C'est une COP très importante.
Donc c'est un rendez-vous important.
Emmanuel Wargon, dites-vous, qui représentera la France alors ?
C'est
lundi prochain.
De nombreux membres du gouvernement représenteront la France. Moi, vous
pouvez
savez,
nous dire qui ou on ne sait pas encore ?
Moi, vous savez, je m'occupe plutôt d'écologie territoriale, donc je ne suis pas en charge de la partie négociation internationale.
Il y aura un ministre présent ?
Mais il y aura forcément des membres du gouvernement présents.
Et pas le président ?
Encore une fois, c'est pas moi qui vous répondrai.
Je dis ça, toute la presse a annoncé sans démenti de l'Élysée qu'il n'irait pas.
C'est pas moi qui vous répondrai sur l'agenda du président de la République. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que ces engagements internationaux, qui sont indispensables, on a vraiment besoin de respecter cette feuille de route. Il se respecte dans ces accords internationaux, dans les trajectoires nationales et dans ce qu'on peut faire vraiment concrètement sur le territoire. Et c'est aussi pour ça que moi, je travaille vraiment sur des sujets locaux avec des communes, avec des collectivités territoriales, parce que les énergies renouvelables, les panneaux solaires, on les met quelque part. Les éoliennes, on les met quelque part. Les mobilités alternatives, c'est-à-dire comment moins prendre sa voiture, ça se fait localement. Et donc, c'est tout le travail que je mène avec des contrats locaux dans des grandes villes, mais dans des villes moyennes, dans des communautés de communes, à Montbard, à Arles, à Briançon, etc. En fait, l'écologie, en général, elle s'incarne localement. Et je pense que c'est ça l'un de nos enjeux.
Une question justement qui agace très fortement en ce moment les associations écologistes, c'est celle de la chasse à la glu, Renaud Delis.
Vous êtes interpellé, Emmanuel Wargon, par ces associations, notamment par la Ligue de protection des oiseaux, puisque cette chasse à la glu, donc, elle est autorisée dans 5 départements. Elle est supposée ne concerner que des espèces de merles et de grives, mais d'autres oiseaux sont pris au piège justement par cette colle. Il y a des images qui sont diffusées qui sont extrêmement choquantes. Est-ce que le gouvernement va interdire la chasse à la glu ?
Alors, la chasse à la glu, c'est une chasse traditionnelle qui existe dans 5 départements dans le sud-est en France, essentiellement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, c'est assez limité en nombre d'oiseaux et en nombre de chasseurs. Ce qu'on fait cette année, déjà, c'est une énorme campagne de contrôle. Moi, j'ai demandé à l'organisme de contrôle, qui s'appelle l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de faire des contrôles dans les 5 départements, à différents moments de la journée, de la semaine. On a fait plus de 500 contrôles sur les dernières semaines, avec d'ailleurs des résultats et des contraventions. On en discute régulièrement avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.
Qui vous a envoyé les images pour vous fassiez avis justement sur le fait que d'autres espèces sont piégées. Alors, c'est le cas ou pas ?
On a constaté dans ces contrôles quelques cas dans lesquels d'autres espèces sont piégées. Dans ces cas-là, bien sûr, on verbalise. Après, la LPO ne nous dit pas...
Comment on peut vérifier qu'une colle n'arrête que les grives et les merles, puisque ce sont les 2 espèces qui sont légalement chassées ?
Alors, d'abord,
ils font le tri, les oiseaux, avant de se poser sur une branche ?
Pardon. D'abord, la LPO nous alerte, et elle a bien raison, mais elle ne nous dit pas où est-ce qu'elle constate des débordements ou des manquements. Et donc, on a aussi besoin d'elle, si elle constate des choses, pour que nous, on puisse aller verbaliser. C'est une chasse qui est en fait extrêmement encadrée, puisque le chasseur doit être à côté. Et donc, si un oiseau se pose et que ce n'est pas l'oiseau qui peut être chassé dans ce type de chasse, le chasseur doit le libérer instantanément. En fait, on doit être à côté de ces pièges en permanence. Si ça n'est pas le cas, dans ce cas-là, nous, on est en capacité d'aller chercher la personne qui a posé le piège et puis qui n'est pas restée à proximité. Donc, normalement, tout ceci est très encadré. Après, on a besoin aussi de l'aide de la LPO pour nous dire où se passent les débordements, les manquements, et on ira les sanctionner.
Vous évoquez des contrôles accrus, des verbalisations de chasseurs. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de la supprimer, cette chasse, ce mode de chasse ?
Comme l'ont fait, je crois, tous les autres pays d'Europe.
Ça fait partie de traditions, de modes de vie, de gens qui ont toujours chassé comme ça.
Il y a des modes de vie qui changent.
Il y a évidemment des évolutions de la société. Des choses qui étaient évidentes, normales, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, le sont moins aujourd'hui. Pour l'instant, notre politique pour cette année, c'est vraiment le renforcement très fort des contrôles pour être sûr que ça se pratique comme c'est censé se pratiquer de façon juridique. Je vous avoue que moi, mon sujet actuellement sur la chasse, c'est plutôt le fait qu'on a eu deux accidents mortels récemment. Moi, j'ai écrit au président de la Fédération nationale de la chasse pour lui dire que ces accidents mortels qui se sont tenus dans des conditions où les gens n'ont pas respecté les règles de sécurité, ça n'est pas admissible et qu'il faut que les règles de sécurité à la chasse soient respectées, c'est indispensable.
Merci à vous, Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous étiez ce matin sur France Info. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.